Visage.
C'est le rendez-vous signé de Radio Utopie. Des chemins détournés et des offres dépistées à des tendances reliquées de chaque samedi de 15h à 17h sur Radio Utopie. Je suis Mme Abolivier Alionoto et je vous y attends.
Les enfants en rupture familiale se comptent par milliers en République démocratique du Congo. À Kinshasa, on dénombre entre 18 et 25 000 enfants de la rue, d'après les experts. Ils passent leur vie dans les marchés, carrefours, parkings, devant les bars et dans bien d'autres endroits. Ils se reproduisent et deviennent des parents, des ménages se forment dans la rue. Alors comment réussir une réintégration familiale de ces enfants, surtout qu'ils sont accusés de sorcellerie et de bien d'autres méfaits. Pour en parler, nous recevons M. Marotti Valentin, coordonnateur de l'ONG OPDE, œuvre humanitaire pour la protection et le développement de l'enfant en difficulté, qui évolue à Uvira, dans le sud Kivu. M. Valentin, encore une fois, bonjour. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour réintégrer ces enfants dans leur famille?
Bon, je ne donnerai pas ici une solution magique, parce qu'il n'y en a pas. Et puis, il faut savoir que le domaine des enfants de la rue, c'est un domaine qui n'est pas encore exploré scientifiquement. Nous sommes en train de faire des études pour ça. Alors, peut-être qu'un jour, nous pourrons donner des recettes ou bien des théories. Mais pour le moment, je ne peux vraiment pas dire ce qu'il faut faire. Ce que je peux dire, c'est peut-être notre expérience personnelle.
Voilà. Votre expérience personnelle, dites-nous, vous évoluez à Uvira, dans le sud Kivu, et là-bas, il y a combien d'enfants qui sont en refuge familial?
Bon, d'après une étude que nous avons menée, on peut compter jusqu'à 900. Peut-être qu'aujourd'hui, ils sont déjà vers 1000-1200.
Et quelles sont les raisons qui poussent ces enfants dans la rue?
Bon, la raison principale, c'est la pauvreté. Mais évidemment, il y en a d'autres encore, c'est les difficultés en famille, hein, soit le divorce, soit l'incompréhension avec la marâtre, si le papa a épousé une autre femme, soit tout simplement que l'enfant est têtu, il ne peut pas écouter. Voilà.
Est-ce qu'on peut dire aussi que les différentes, l'insécurité, la guerre, tout ça, avec certaines bandes armées, ça peut être à la base de cela?
Oui, justement, au début de notre travail, vers 1997-98, avec la guerre, 99, même 2000, il y a eu beaucoup d'enfants qui sont venus des montagnes, qui sont venus d'autres endroits à cause de la guerre, que nous avons dû recevoir comme ça. Et ils sont même venus d'autres pays.
Oui, voisins. Voilà. Alors, comment est-ce que vous êtes arrivé à... Et combien d'enfants, d'abord, ont été intégrés dans leur famille?
À ce jour, je pense que nous avons déjà intégré environ 300 depuis notre travail.
300?
Oui. Et l'intégration n'est pas facile parce que, des fois, vous les emmenez chez eux, et ce sont soit les parents, soit les voisins qui vous disent « Non, ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il vaut mieux continuer à le garder. » Mais la loi n'est pas celle-là. On ne doit pas garder l'enfant. Mais face à la difficulté, parfois on se dérobe à la loi et on garde encore juste pour faire bénéficier à l'enfant de quelques profits, par exemple la scolarité.
Alors, comment quelles sont les stratégies appliquées pour intégrer ces 300 enfants dans leur famille?
On l'a d'abord gardé au foyer, parce que c'est ça que nous faisons. On le garde d'abord au foyer pendant un temps.
Vous avez un foyer?
Oui, nous avons deux foyers d'accueil du type familial. Et dans ce type familial, ça signifie qu'il y a un substitut parental, papa, maman, qui font plus de parents. Alors, ils le suivent, ils essaient de leur donner l'affection qu'ils peuvent. C'est vraiment...
Des parents, deux, qui se retrouvent avec combien d'enfants?
Dans un foyer, nous avons la capacité d'héberger 20 à 25 enfants. Oui. Alors, ceux-là sont des employés, nous les appelons des éducateurs, ils font office de parents. C'est-à-dire, le papa apporte son affection, la maman aussi, et ils encadrent les enfants. Et donc, après cet encadrement-là, nous continuons à rechercher la famille proche ou la famille éloignée. Et nous gardons contact avec eux, pour essayer de les préparer régulièrement à ce qu'ils puissent recevoir leur enfant un jour ou l'autre. Mais parfois, nous ne trouvons pas ses parents parce qu'ils sont éloignés. À Uvira, par exemple, nous sommes à environ 400 km de Kalemie. Alors, Kalemie, on ne peut pas y aller facilement parce qu'il faut encore traverser le lac. Alors là, on essaie de chercher des contacts téléphoniques et parfois on ne trouve pas. Alors en ce cas-là, ça devient difficile.
D'abord, ce sont les enfants eux-mêmes qui vous donnent les renseignements sur leurs parents.
Non, on essaie de chercher parce qu'il y a chaque fois des bateaux qui arrivent de Calémé jusqu'à Ouvira. On fait des efforts quoi, pour tenter, on fait des recherches. Mais je continue alors en disant qu'on garde contact avec les parents, proches ou éloignés. On les prépare à ce qu'ils puissent recevoir leur enfant un jour ou l'autre. Et puis, lorsque le moment est venu, on décide au sein du comité pour le ramener chez lui. Mais parfois, il ne faut pas le ramener vite avant la fin de l'année scolaire, puisque les enfants que nous gardons, nous ne voulons pas les garder pour leur donner à manger seulement, nous voulons les garder aussi pour les préparer à l'avenir. Et pour nous, préparer un enfant à l'avenir, c'est le mettre à l'école. Donc notre réinsertion généralement se fait après l'année scolaire, c'est-à-dire au mois de juillet, entre août et septembre.
Mmh. Oui. Alors donc la première chose que vous avez dit, vous recherchez les contacts des parents proches de ces enfants, oui. Et vous les préparez à recevoir un enfant un jour ou l'autre, à recevoir l'enfant. Mais quelle est la réaction souvent?
Bon,
la réaction des parents, des proches.
Oui, il faut distinguer deux catégories de parents. Il y a des parents, il y en a très peu d'ailleurs, il y a des parents qui se suffisent et beaucoup sont ceux qui ne se suffisent pas.
C'est-à-dire,
bon, ils n'ont pas de moyens. Ceux qui se suffisent sont très peu nombreux, ce sont des gens qui travaillent quelque part, ils peuvent avoir à manger, à s'habiller, mais ils ne sont pas très nombreux. Alors, ceux-là acceptent, mais ils disent, bon, est-ce que vous ne pouvez pas encore le garder parce que vous pouvez les éduquer, vous pouvez l'éduquer, vous pouvez encore l'adoucir. La deuxième réaction, c'est celle des parents qui ne peuvent pas vraiment, qui sont démunis. Il faut savoir que notre région est une région sinistrée. Et depuis longtemps, moi j'ai connu la guerre depuis 1964. Et depuis 1964 jusqu'à ce jour, il y a toujours des guerres. Et juste hier, on me signale que chez nous, il y a eu des coups de balles. Hein. Alors, c'est tout le temps dans ce climat que nous avons vécu. Et alors, les parents sont déjà démunis. Et quand vous lui dites que vous êtes prêt à lui ramener son enfant, il vous dit, est-ce que vous ne pouvez pas encore continuer à le garder?
Parce que lui, il n'a pas les moyens de le prendre en charge.
Oui, c'est-à-dire, il peut lui offrir un repas par jour, mais il ne peut pas le scolariser. Et quand bien même il le scolarise, ça ne peut pas aller jusqu'à l'école secondaire, c'est pas facile. Et après l'école secondaire, il y a l'université. Alors là, c'est où les Romains s'en prennent.
Bien. Vous avez des questions, des préoccupations par rapport à ce thème? Comment réussir la réintégration familiale des enfants? Appelez-nous au 081-800-963-94. Alors, là, vous avez dit la première étape, c'est le contact avec les parents.
Oui.
Et après le contact, vous avez dit, il y a certains parents qui acceptent et d'autres, parce qu'ils n'ont pas de moyens, ils vous demandent de garder encore les enfants. Alors, pour les 300 dont vous avez fait allusion tout à l'heure, comment est-ce que vous avez procédé pour les ramener chez eux?
C'est de cette façon-là. Donc, on a gardé contact. Et puis, lorsque finalement le parent accepte, on le lui donne. Mais parfois aussi, ils essaient de résister. Nous, on ne peut pas faire autrement. Quand il a atteint l'âge, par exemple, de 21 ans, on ne peut pas continuer à le garder 21 ans, 22 ans. Il a déjà eu peut-être son diplôme d'État, alors on le ramène. Hein.
Mais il y a d'autres enfants qui sont accusés de sautaxer des sorciers, qui sont chassés dans leur famille. Pour ces gens d'enfants-là, comment les ramener chez eux?
Bon, nous avons déjà eu de tels cas aussi, et c'était des cas très très difficiles, très très délicats, déjà dans nos foyers et même à l'extérieur. Donc la difficulté majeure, c'est de faire comprendre que les enfants ne sont pas sorciers. Ça, on vous comprendra difficilement. Beaucoup de parents congolais sont déjà convaincus que les enfants, il y a des sorciers. Mais moi, je ne crois pas et je ne suis pas le seul à ne pas y croire. Alors, lorsque cela arrive, nous, on s'efforce. Hein, l'enfant, c'est un être qu'il faut aimer absolument. On doit le ménager par rapport à ses compagnons. Mais c'est toujours difficile. Et à la fin, Même des parents biologiques de l'enfant sont parfois convaincus que l'enfant est sorcier. Alors à ce moment-là, il faut faire intervenir des spécialistes, parfois aussi des prêtres, pour faire comprendre à l'enfant aux parents qu'il faut aimer l'enfant et il faut lui trouver un milieu propice. Dans notre cas spécifique, Je me rappelle, hein, le tout dernier cas, c'était une petite fille qui était venue de Lemera. Lemera, c'est environ 50 km d'Ouvira.
Oui.
Alors, c'est une petite fille que nous avons gardée chez nous. Elle-même était convaincue qu'elle était sorcière. Elle pleurait tout le temps. Et nous avons dû trouver un mécanisme pour l'acheminer ailleurs, puisque les enfants dans nos foyers, eux-mêmes craignaient déjà. Nous lui avons trouvé une place à Bukavu, d'autant plus qu'il était originaire de Bukavu.
Oui. Bien. Nous avons un auditeur en ligne, Amis Fatakili, nous appelle de Kindu, dans la province du Maniema. Vous voulez également participer, les standards et les ouverts, composez le 080-1-890-63-94.
Chaque jour, la fréquence de la PMI le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces. À 8h45, 10h15, 17h20 et 17h50. Heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Comment réussir la réintégration familiale d'un enfant? Amis Fataki, bonjour.
Bonjour Jean-Luc Atama, bonjour à tous les auditeurs et à tous les amis qui m'ont manqué à travers les ondes de la radio Café de Kikundu.
On vous écoute à Amis.
Oui, j'avais une question à adresser à notre invité, d'autant plus que nous voyons que c'est un problème qui est très délicat dans nos familles. Alors je voudrais demander à l'invité comment récupérer la confiance maintenant, parce qu'il semblerait que il y a une crise de confiance entre l'enfant qui a été réintégré de la famille. Chaque membre de la famille observe seulement l'enfant qui est venu de la maison. Maintenant, je voulais savoir quel est le mécanisme qu'on peut utiliser pour établir la confiance qui a été interrompue il y a vraiment longtemps.
Merci.
Voilà la question, M. Jody.
Merci, M. Fataki. Moïse Banda Mukalaï. Et à Manono, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous les autres, c'est Manono.
On vous écoute, Moïse.
Ouais, moi, j'ai une petite à deux volets.
Okay.
Bien, je voudrais savoir, quand on dit d'intégrer cet enfant-là, comme il m'a appelé Chege, c'est déjà des enfants de femmes, à peine colère, de soutien, et c'est important. Et ils sont aussi soucieux. Une fois que l'enfant là soit intégré dans les familles, bon, quelle chose, quelle place va suivre ces enfants-là vu la vie de ses proches? Ça, c'est un. Le deux, c'est que ces enfants seront sûrs de les responsables.
Moïse, désolé, on n'a pas très bien capté votre question, ce que vous voulez dire, la liaison pour le problème. On va peut-être vous retrouver plus tard. Alors, M. Valentin Marotti, vous avez suivi la question de la mission de Kindu. Comment, quel est le mécanisme pour rétablir la confiance? Parce que ces enfants qui étaient dans la rue, qui rentrent dans la famille, on les soupçonne de tout. Lorsque quelque chose se perd, on pense que c'est lui qui a volé. Comment rétablir cette confiance?
Bon, il faut savoir que nous sommes parents et pour le parent, la première chose c'est de donner, d'abord avoir confiance. C'est le parent qui doit commencer à avoir confiance dans l'enfant. Et alors, le parent ne doit pas seulement avoir confiance, il doit accompagner cette confiance de l'affection. Il faut montrer à l'enfant que vous l'aimez. Il faut lui montrer que vous voulez l'accompagner. Il faut lui montrer que vous voulez son bien. Et faire parfois abstraction de ce petit défaut, parce que dès qu'il quitte la rue, ce n'est pas à ce moment-là qu'il va devenir un enfant normal. Il faut encore l'accompagner et il faut accepter toutes ses erreurs. Hein.
Il faut accepter toutes ses erreurs. Mais généralement, quand ces enfants se retrouvent dans la rue, ils rentrent à la maison, ils développent un autre type de comportement. Qu'est-ce que vous avez noté généralement chez ces enfants?
Bon, c'est ce qu'on croit. Mais le petit prolongement de leur vie de la rue est inévitable dans la famille. Et c'est ce qu'on croit. On dit ils ont développé un mécanisme de vie. C'est ce prolongement-là. Mais moi, je ne crois pas. Ce n'est pas vraiment un autre type de vie. Ça finit par se terminer et l'enfant redevient normal. Nous les avons connus, nous les avons acheminés même. Ils sont partis. Nous avons des enfants qui sont partis déjà aux universités après avoir été chez nous après avoir été dans la rue, après avoir été chez nous. Mm-hmm. On les a réinsérés. J'en connais un qui est déjà licencié en droit. Il est à Lubumbashi. C'est un enfant de la rue.
Voilà. Donc, les parents, ça, cela leur demande de la patience et puis beaucoup d'amour. Il peut commettre des petits larcins, des petits gestes d'impolitesse, il peut supporter.
Ah oui, c'est ce que nous avons tous été, même en famille normale, n'est-ce pas?
Mm-hmm. Oui.
Alors, celui-là, à force de celui-là, il faut l'accepter. Ça finit par aller.
Voilà. Un fils qui a Bassaga nous a écrit des bénis. Il dit, pour moi, tout doit commencer au niveau parental. Les faire voir aux parents pourquoi ils ont mis au monde.
Au parlant, nous sommes d'accord avec celui-là. Moi, je suis d'accord avec celui-là. Mmh. Ça, c'est une situation normale. Ça, c'est le schéma de l'éducation du parent envers les enfants.
Bien. Jean-Tarcisse Congolo de Goma, je crois que ce genre de cas arrive souvent pendant les guerres et c'est difficile de faire la réintégration dans les milieux familiaux.
Non, ce n'est pas seulement dans les guerres. La crise, c'est aussi une guerre. Hein. Quand une société connaît une crise, voilà, c'est aussi une guerre et cela arrive.
Les enfants disent que c'est difficile de réussir une réintégration familiale.
Bon, je dis plutôt que ce n'est pas facile, mais on réussit. On réussit, parfois on réussit.
Parfois on réussit. Ismaël Mumpoi nous appelle de Lubumbashi, bonjour.
Bonjour M. Jody et bonjour à tous les auditeurs de la radio Vatrice.
On vous écoute Ismaël.
Ah oui, selon mes estimés, pour ne pas savoir les noms de nos invités. Juste une suggestion, une toute petite question à savoir pourquoi nous voyons beaucoup et multitude des enfants de la rue. Et comme la question, qu'est-ce qu'on peut faire nécessairement pour éviter le banditisme et la délinquance au milieu de la vie sociale? Et en plus de cela, je peux m'en souvenir aussi du gouverneur qui était en 2005 à Mujumai. Les églises, c'est ça qui est situé à la base même de la multiplicité des enfants de la rue. À juste titre, c'est un pasteur, soit un prophète est invité chez un pasteur, chez une famille plutôt. Il vous dit que cet enfant est sorcier. Cela devient maintenant une cause multiple de sculpter l'enfant de la maison vers la rue. Est-ce qu'on ne peut pas encore faire que le gouvernement peut élaborer la loi qui est conforme à ne pas avoir une divulgation de mensonges pour les enfants, en juste que les enfants puissent rester dans les familles? Et en plus de cette suggestion et cette question, je pourrais encore dire pourquoi les parents et le gouvernement ne peuvent pas avoir aussi une bonne initiative d'envoyer souvent les enfants à l'école pour l'éducation plutôt que les laisser au milieu de la route.
Merci, Ismaël. Merci, Valentin Marossi.
Bon, l'État congolais a déjà élaboré une loi sur la protection de l'enfance. Il faut la lire et je crois qu'elle a déjà été vulgarisée. Peut-être que notre ami qui nous parle maintenant n'y a pas encore accédé, mais cette loi existe. Et s'agissant alors des églises, je suis désolé, hein, moi je pense qu'il faut... Moi je déclare qu'il ne faut pas croire, il ne faut pas vraiment croire aux églises qui proclament qu'il y a des enfants sorciers. Je ne crois pas. L'Église catholique n'a jamais dit, d'ailleurs, n'a jamais admis l'existence des enfants sorciers. Ce sont peut-être ces autres églises qu'il ne faut d'ailleurs pas appeler églises, ce sont des sectes.
Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour cela qui traite les enfants des sorciers? Et bon. Qu'est-ce qu'il peut prévoir la loi qui protège les enfants par rapport à cela?
Non, il y a des sanctions. Il faut fustiger. Et ce n'est pas moi qui vais sanctionner, c'est l'État. Ça, c'est le rôle de l'État.
Le rôle de l'État. Jean-Pierre Mbouli de Béni, au Nord Kivu, bonjour.
Bonjour, bonjour.
On vous écoute.
Oui, alors, moi j'avais une préoccupation en rapport avec le thème du jour. L'Est de la République a connu beaucoup de problèmes, beaucoup de conflits, et a eu une catégorie d'enfants, une génération d'enfants nés avec beaucoup de stress à cause des affres de la guerre. Et alors, ces enfants, au sein de leur famille, ils ont un caractère très énervé, ils sont étourdis, intraitables, et ils parviennent même à quitter la maison pour aller vivre dans la rue. Et alors, lorsqu'on demande conseil, on nous dit qu'il faut une prise en charge psychologique spéciale. Alors on se demande, d'où viendra cette prise en charge spéciale? Notre invité pourrait nous modifier à travers cette situation-là.
Merci Jean-Pierre. Merci. Prise en charge psychologique, ben, on ne trouvera pas toujours et pas facilement des centres de rééducation psychologique. Hein. Alors, la meilleure chose, donc, il faut que les parents prennent la chose en main. Il faut que les parents prennent leurs responsabilités. Et la meilleure des choses, c'est d'efforcer de ne pas avoir un grand nombre d'enfants dans la famille pour qu'on ait des enfants pour lesquels on peut avoir vraiment, pour lesquels on peut s'occuper sérieusement. Voilà pour moi la première solution.
Mais il dit, avec les offres de la guerre, les enfants manifestent un certain nombre de comportements, ils sont étourdis, ils se retrouvent dans la rue, il faut une prise en charge psychologique, c'est ça la meilleure solution.
Et ce ne sont pas seulement les parents, ce ne sont pas seulement les enfants qui sont affectés comme ça. Moi, je confirme que même dans d'autres régions, comme ma région à Ouvira, les gens sont nerveux, hein.
Donc les adultes...
Oui, les adultes sont nerveux.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire?
Pour les cas des enfants particulièrement, comme nous parlons particulièrement des enfants. Bon, je ne vois pas tout de suite de solution, mais je crois qu'il existe des centres de rééducation. Ce sont ces foyers d'accueil que nous mettons en place. Alors, il y a des parents plus ou moins équilibrés qui s'efforcent d'accompagner les enfants. Moi, je suis un ancien enseignant, et mes coéquipiers sont aussi des anciens enseignants. Donc, nous connaissons l'enfant, nous avons étudié la psychologie de l'enfant, c'est question de le supporter, de l'accompagner.
Radio Okapi encourage les jeunes talents congolais. Auteurs, compositeurs, interprètes, une adresse mail est à votre disposition. musique@radiokapi.net. Envoyez vos chansons. Après sélection, elles feront peut-être partie de la playlist d'une émission de Radio Okapi. Faites-vous connaître, des millions d'auditeurs vont écouter votre musique. musique@radiokapi.net. Allez-y, on vous attend.
Comment réussir la réintégration familiale d'un enfant? Abou Biaï nous appelle de Johannesburg, en Afrique du Sud. Abou Biaï, Mbote, Moutouna Navizani.
Mbote, papa, j'ai dit Moutouna Nanga, la Luna qui m'a invité ma bisson. Tuna Baka, Obama, Obabena, ma famille, Tuna Kinduki. Moi, déjà, je n'ai pas de problème à Kinduki. C'est quoi, ce qui bat ma bisson, on sait. On me dit, moi, on a des soucis, ma famille, on a. Et là, on a pas conseillé, ou bien, on a système, mon coup spirituel, pour bah, je dis, moi, on a un apport, ce n'est pas facile, tout le monde, bah, de mettre, moi, on a ma famille, on a pour bah, bien, on a déjà pour un problème à Kinduki. N'a qu'à, on a. Si, le connu, je te dis, on a dit, ça, pour bah, intégrer, moi, on a ma famille, on a.
Merci à vous, à monsieur Valentin. Bon, j'ai compris, hein, même s'il a parlé en lingala, c'est pas ma langue naturelle, mais j'ai compris.
Vous pouvez aussi vous exprimer en lingala?
Non, allez-y.
Vous prendrez beaucoup de temps.
Allez-y. Oui, je vais lui répondre en français, j'espère qu'il écoute. Je crois que j'ai déjà dit ça. Il faut que les familles comprennent que l'enfant n'a jamais été sorcier. C'est une intoxication. Dès lors que la famille a compris que l'enfant, c'est un petit saint, l'enfant n'est pas sorcier, il faut être prêt à l'accueillir.
Mais du moment où la famille est convaincue que l'enfant est sorcier, on le chasse de la maison, maintenant, le ramener, il voudrait savoir quelle est la procédure, la démarche à effectuer.
À la démarche, c'est d'aller d'abord à la famille, hein, convaincre la famille.
Comment?
Bon, je ne suis pas prêtre, mais je me suis essayé à ça, hein.
Oui. Parlez-nous de votre expérience à Ouvira. Comment vous êtes arrivé à convaincre certaines familles qui avaient chassé les enfants accusés de sorcellerie?
Bon, je vais encore évoquer le cas de cette famille-là, de l'Emera. Ce sont des gens de Bukavu qui s'étaient installés à l'Emera. Alors, le papa était convaincu que l'enfant était sorcière. La maman aussi. Nous les avons appelés. Mais ce n'est pas eux qui ont chassé l'enfant. C'est l'environnement qui a chassé l'enfant. Déjà, à l'école, l'enfant était malmené, et même la famille a commencé à croire que l'enfant était sorcière. Nous l'avons retrouvé à Ouvira. Alors, lorsque finalement, la famille...
Et qu'est-ce que l'enfant faisait à Ouvira?
Bon, elle rôdait dans les rues. Oui, nous l'avons accueillie,
Et finalement, les parents se sont présentés. Nous sommes arrivés à connaître le numéro de contact. Nous les avons appelés. Ils sont venus. Nous avons causé longuement avec eux. Nous leur avons montré que l'enfant ne pouvait pas être sorcier et que cela était une intoxication. Je pense que c'est aussi une façon, c'est de magouille, hein. Il y a des sectes qui cherchent à gagner de l'argent comme ça, et qui disent, qui convainquent. Et je suis étonné de constater que la société congolaise est déjà convaincue que les enfants peuvent être sorciers. Ça, c'est dommage.
Et au cours d'un seul entretien, vous êtes arrivé à convaincre ses parents?
Non, c'était pas un seul entretien. Ils sont restés plusieurs jours dans la ville d'Ouvira, et ils étaient pas bien munis, et nous avons dû participer pour qu'ils restent. Ils restent à Ouvira, et pour qu'on puisse continuer les entretiens.
Et à la fin, comment ça s'est terminé? Ils ont finalement accepté.
Les parents sont retournés, l'enfant est resté, les parents, le milieu n'était pas encore conforme, alors nous l'avons envoyé à Bukavu, dans un autre centre comme le nôtre, loin, loin, loin alors de ceux qui prétendaient que l'enfant était sorcier. Et c'était une nouvelle vie pour elle.
Mmh. Ouais. Rodrigue Moukoulou de Boutembo dit ceci: créer le bonheur, il faut d'abord créer le bonheur des enfants qui sont dans la famille. Cela motivera les autres qui sont dans la rue de rentrer.
Oui, tout à fait. Les enfants, on les crée, les enfants, on les fait, non pas pour la souffrance, mais pour le bonheur. Hein. Alors, s'il y en a un qui s'est égaré, lorsqu'il retourne et qu'il est bien reçu par les autres qui sont restés ainsi que les parents, l'enfant sera nécessairement égaré avec les autres.
Kibukila Emedo, Jean-Paul nous a écrit depuis Kampala en Ouganda. Quelles sont les stratégies pour réintégrer ces enfants dans leur famille, l'origine, et quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre ce fléau?
La question s'adresse au gouvernement. La question s'adresse au gouvernement. Mais quant à ce qui me concerne, ou à ce qui nous concerne, nous, éducateurs, alors nous faisons ce que nous pouvons, c'est ce que j'ai dit. Donc, contact avec la famille, sensibilisation de la famille, mais la meilleure façon devrait être de pourvoir la famille de quelques moyens. C'est-à-dire, il faut que l'emploi, c'est quelque chose de nécessaire.
Donc, vous voulez dire que c'est la pauvreté est la raison principale de ce phénomène?
Oui, parce que j'observe que la pauvreté est profonde. Je viens de l'arrière-pays, je pensais que c'est nous qui étions en train de souffrir de la pauvreté, mais je me rends compte, après un mois, il s'est passé que la pauvreté est grave, elle bat le cœur, elle bat le cœur.
Guylain Kitemé, depuis Kiwanja, pour intégrer de tels enfants, notre gouvernement doit les envoyer étudier, ou soit les mettre dans des garages, ou encore créer une entreprise qui s'occupera d'eux.
Bon, le gouvernement devrait faire cela, mais ce que nous faisons, association de prise en charge des enfants de la rue, nous essayons de créer justement des petites unités, hein, des centres de formation, et nous enseignons des métiers, menuiserie, plomberie, couture, voilà,
maçonnerie.
Oui, et nous les envoyons à l'école parce que
vous avez des enfants qui ont déjà terminé les études et qui travaillent aujourd'hui, si c'est pris en charge.
Oui, je vous ai cité l'exemple de cet enfant de la rue qui est devenu licencié en droit, il est à Lubumbashi.
Il a trouvé un job, il travaille là-bas.
Je pense qu'il va trouver. Je pense qu'il va trouver.
Oui. Bien, Valentin Marotti, coordinateur national de l'ONG OPDE, œuvre humanitaire pour la protection et le développement de l'enfant en difficulté, une ONG qui évolue à Ouira. Merci et à la prochaine.
Merci.